Il est 8h.
Les appartements que nous avions location, on a dû passer des prix de 795 € par exemple pour un T2 meublé à 690 pour pouvoir le louer.
Les loyers en nette baisse dans les grandes villes. Des appartements qui étaient passés sur Airbnb reviennent sur le marché classique, faute de touristes. Dossier d'Europe 1 sur cette tendance qui contraint les propriétaires à faire des efforts. À long terme, c'est l'investissement locatif qui est menacé. La terreur comme stratégie politique. Alexandre Loukachenko, dirigeant biélorusse, est prêt à tout pour faire taire la contestation. L'analyse de Didier François avec nous dans ce journal. Et puis, êtes-vous prêt à monter dans un TER sans conducteur? La SNCF se prépare à l'automatisation de certaines étapes de conduite dès 2026. 8h15, l'interview de Sonia Mabrouk. Bonjour Sonia.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Des sujets concrets au programme de l'interview, concrets mais clivants. Les éoliennes, le nucléaire, la chasse, c'est peu dire que la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qu'on entend peu, fait face à des résistances. Rendez-vous 8h15.
On vous retrouve juste après ce journal. Très bon réveil à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 8h, c'est le journal de François Geffrier. Bonjour François.
Bonjour. Comme un juste retour des choses dans les grandes villes, après des années à être happé par Airbnb, des appartements meublés sont remis sur le marché traditionnel de la location. Il y a eu de nouvelles règles limitant l'emprise de ces plateformes internet et bien sûr, il y a eu l'effondrement du tourisme. La conséquence se voit sur les loyers, moins 4,5% à Paris, moins 6,7% à Bordeaux.
Alors on va regarder cela en détail avec vous, Maud Descamps du service économie d'Europe 1 et avec Stéphane Place, notre correspondant à Bordeaux. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Maud, dans certaines villes, cette hausse du nombre d'appartements meublés est impressionnante.
Eh bien oui, je vais vous donner quelques chiffres. À Paris, par exemple, leur nombre a été multiplié par 5 en un an. Même chose à Boulogne-Billancourt, à Amiens et à Annecy. C'est 3 fois plus que l'an dernier, nous dit le baromètre Se Loger. Et même chose à Rennes et à Nantes. Vous voyez, hein, c'est un phénomène national.
Un phénomène national, nous dites-vous. Alors, on parle de grands chiffres, mais on le vérifie bien sur le terrain. Stéphane Place, les agences immobilières incitent même les propriétaires à baisser les prix pour être sûrs de louer leurs biens.
Bien, par exemple, dans cette agence immobilière du quartier de la Victoire, ici à Bordeaux, Kevin a, comme ses confrères, enregistré une hausse très nette de cette offre spécifique sur le marché local des meublés, conséquence directe de la crise sanitaire.
L'explosion, elle s'est vraiment passée cet hiver, effectivement, avec tous ces logements Airbnb qui n'étaient plus loués, vu qu'il n'y avait plus de vacanciers à Bordeaux. Donc, cette offre s'est reportée sur le marché locatif traditionnel. Le marché était inondé, surtout en studio T2. Donc, les appartements que nous avions en location, on a dû passer des prix de 795 € par exemple pour un T2 meublé à 690 pour pouvoir le louer.
D'autant que l'offre demeure toujours plus importante que la demande. Thomas Rabot, directeur location d'Auralia Bordeaux.
Nous, on a pas mal de meublés effectivement en location actuellement, qui pour l'instant trouvent difficilement preneurs, liés à la crise sanitaire. C'est des logements qui sont quand même assez typés étudiants de base, ou de personnes qui peuvent être mutées, et que ce soit les étudiants qui sont pas là ou peu là, ou les personnes mutées qui, dans leurs entreprises, les choses sont un peu gelées. C'est des clients qu'on n'a pas forcément. Donc sur l'offre locative qu'on a en meublé, j'ai contacté les propriétaires. On a effectivement baissé les prix pour relancer un peu la machine.
Situation conjoncturelle, évidemment. Évidemment, personne ne peut prédire si elle va se prolonger ou pas. Tout dépendra de la reprise d'activité dans les semaines et mois à venir.
Alors, Maud Descamps, si on se place du point de vue des locataires, notamment les étudiants, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Oui, hein, cette année, les étudiants vont pouvoir clairement faire la fine bouche et s'offrir plus grand, mais surtout plus beau, constate Marie-Cécile Gérardin, agent immobilier à Paris.
On a beaucoup de studios aujourd'hui qui n'ont pas de toilettes, par exemple, ou qui ont des WC sur le palier. Cela ne trouve plus du tout preneur et on a un gros marché de jolies studettes à louer, mais bien rénovées, bien meublées, bien agencées. On en aura beaucoup plus qu'avant.
Et donc, vous l'avez compris, hein, les propriétaires vont devoir faire un effort s'ils veulent louer leurs biens cette année.
Et justement, si on se place du point de vue des propriétaires, est-ce qu'ils doivent s'inquiéter d'une baisse des loyers durable ?
Alors c'est toute la question, elle pourrait devenir structurelle, selon les experts avec qui j'ai échangé, si les universités décidaient par exemple de pérenniser le système de cours à distance. Et dans ce cas, le logement étudiant ne serait clairement plus un produit rentable pour les investisseurs.
Dossier signé Maud Descamps et Stéphane Place. Merci beaucoup à vous de vous retrouver tous les chiffres, les informations qu'on vient de vous livrer sur europe1.fr.
L'optimisme à la une ce matin, les projections prudentes mais encourageantes de l'Institut Pasteur sur les prochaines semaines. Contamination qui baisse, vaccination qui progresse vite, l'été se profile dans des conditions favorables, nous disent les scientifiques, dont Arnaud Fontanet, l'épidémiologiste. Ce matin sur Europe 1, a appelé tout le monde à bien garder le cap encore quelques semaines.
On vous incite à faire vraiment attention dans les semaines qui viennent parce que on peut complètement basculer dans un autre moment de l'épidémie où si elle n'a pas reparti d'ici le 15 juin, disons, eh bien, l'été serait quand même beaucoup plus facile.
Au rythme de baisse actuelle, on pourrait être à ces 5000 contaminations par jour d'ici au 10 juin, dans une quinzaine de jours.
Un peu plus de temps, je pense, hein. Deuxième quinzaine de juin probablement. Et c'est vraiment là, le fait que le testé alerté protégé marche bien, permettra à ce moment-là d'avoir un bien meilleur contrôle sur la suite. Donc voilà, si on tient encore 3 semaines de plus, on peut vraiment avoir un été très différent.
Le professeur Arnaud Fontanet, ce matin, au micro de Théo Manval.
Il est 8h06 sur Europe 1. La Biélorussie, sanctionnée par l'Union européenne, qui recommande à ses compagnies aériennes de contourner le pays qui va fermer son espace aérien aux avions biélorusses.
Ouais, conséquence du détournement d'un vol Ryanair vers Minsk et de l'arrestation de l'opposant Roman Protasevich dimanche. Vous entendiez dans le journal de 7h quelques mots du jeune journaliste diffusé par la télévision publique biélorusse. Alors pour mieux comprendre le climat politique de ce pays, écoutez ce témoignage européen, celui de Sabina, une amie de Roman Protasevich. Elle vit en Lituanie, d'où elle milite en ligne contre le régime d'Alexandre Loukachenko. Jointe par Romain Houg, elle confie son inquiétude aujourd'hui pour sa propre sécurité.
Bien sûr que j'ai peur, parce que je sais que la police me cherche en ce moment en Biélorussie. Je ne peux pas y aller parce que je suis menacée là-bas. Et maintenant, je ne me sens en sécurité nulle part. J'ai l'impression de ne plus pouvoir me déplacer. C'est effrayant.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris l'arrestation de Roman Protasevich?
Ça m'a choquée. Roman pensait qu'il était en sécurité, protégé par la loi lituanienne et le droit international dans cet avion. Il ne faut pas oublier qu'il a été tout simplement kidnappé. Comme de nombreuses personnes en Biélorussie ces derniers mois. C'est terrible. Je n'ai pas eu de nouvelles de Roman et de sa compagne depuis leur arrestation. On sait qu'ils sont tous les deux détenus à Minsk. Ça risque de mal finir. Nous n'avons que quelques jours pour agir.
Bonjour Didier François.
Bonjour.
Spécialiste des questions stratégiques et de défense à Europe 1, que nous dit cette arrestation spectaculaire, ce détournement d'avion du régime biélorusse?
Alors en fait, la stratégie d'Alexandre Loukachenko est malheureusement bien résumée dans le témoignage de la jeune femme que vous venez d'entendre. Il s'agit de terroriser tous ses opposants potentiels en organisant la répression la plus cynique et la plus spectaculaire contre ses adversaires les plus connus ou les plus en vue, l'idée étant de leur démontrer que rien ni personne ne pourra jamais les protéger. C'est exactement ce que fait Vladimir Poutine, qui est d'ailleurs le plus grand défenseur du dictateur biélorusse, lorsqu'il empoisonne d'abord Alexei Navalny, puis qu'il le jette en prison dès son retour en Russie, au prétexte qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire pendant sa convalescence. Rendez-vous compte que non seulement Alexandre Loukachenko a donné l'ordre personnellement à ses chasseurs d'intercepter l'avion civil d'une compagnie européenne effectuant un vol régulier dans un couloir aérien, tout ce qu'il y a de plus officiel, et cela sous un prétexte parfaitement fallacieux, mais qu'en plus, il l'a publiquement revendiqué par la voix de son porte-parole. C'est donc un défi de taille lancé à la communauté internationale, à commencer par l'Union européenne, qui est directement visée par cette provocation.
Merci Didier François. L'actualité internationale ce matin, c'est Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, qui est arrivé à Tel Aviv. 4e jour de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Il doit aussi se rendre en Cisjordanie.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. Vous avez confiance, François?
Oui.
On embarque dans un train sans conducteur. A tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h10 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier.
Ce n'est pas un remake écolo du film « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» Ça, c'était en 1980. Mais bientôt, vous vous poserez peut-être la question « Y a-t-il un conducteur dans le train ?»
Bonjour Aurélien Fleureau.
Bonjour.
La SNCF avance dans ses expérimentations de trains autonomes.
Oui, les derniers tests qui viennent de se dérouler dans le département du Nord ont permis de démontrer que l'étape de la semi-autonomie était maîtrisée. L'initiative a été lancée il y a 2 ans via un consortium, notamment avec Thales, Bosch et Alstom. Il doit aboutir en 2023. Luc Laroche, directeur du projet Train Autonome à la SNCF.
On en est à mi-parcours et on a maintenant un TER qui a été modifié et qui est donc capable de rouler avec un certain nombre d'automatismes. Il est capable notamment d'accélérer et de freiner en fonction de son horaire, en fonction des feux qu'il rencontre. Et puis petit à petit, on lui rajoute différents capteurs qui permettent de savoir ce qui se passe devant le train, de voir s'il y a des obstacles, s'il y a des choses dans l'environnement.
Ces trains intelligents permettront de gagner en fluidité, en régularité, le nerf de la guerre pour la SNCF. À ce stade, il y a toujours un conducteur pour surveiller. L'autonomie complète ne sera d'ailleurs pas forcément utilisée pour tous les types de trains. Mais dès 2026, des trajets comme la sortie du dépôt jusqu'à l'arrivée en gare pourront se faire entièrement sans cheminots présents dans la cabine.
Merci Aurélien Fleureau, spécialiste transport d'Europe 1. Lui remonte à bord du bus de l'équipe de France de foot. Karim Benzema parle ce matin au journal L'Équipe à propos de la discussion avec Didier Deschamps. Ça faisait plus de 5 ans qu'on ne s'était pas croisés, raconte l'attaquant. Et au bout de 3 minutes, tout était redevenu comme avant.
François Geffrier, c'était le journal de 8h. Parfois, il suffit de 3 minutes. Hein. De savoir se dire les choses. Merci beaucoup François Geffrier, c'était le journal de 8h sur Europe 1. Il est 8h12. Dans un tout petit instant, Sonia Mabrouk et son invitée, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9. Mathieu Béliard.
8h15 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
Bienvenue à vous et bonjour Barbara Pompili.
Bonjour.
Avant d'évoquer vos dossiers nombreux et importants, est-ce que vous soutenez la démarche de Gérald Darmanin dans sa plainte contre Audrey Pulvar sur ses propos concernant la police, ou bien est-ce que vous soutenez la plainte de celle-ci en diffamation contre le ministre de l'Intérieur ?
Écoutez, d'une manière générale, je pense que le débat politique peut vivre sans passer par des tribunaux. On est dans un pays de droit, on est dans un pays de liberté, et la liberté, c'est aussi la liberté d'expression. Là, le choix a été fait de mettre ces débats devant les tribunaux, dont acte.
Mais je crois qu'il y a une place
pour le débat, y compris dans des périodes électorales comme ça.
Donc,
même un peu musclé.
Ce n'est pas une bonne idée de passer par la justice, par une plainte, comme l'a fait le ministre de l'Intérieur ?
D'une manière générale, encore une fois, le débat politique, il y a assez de place pour un échange d'arguments sans devoir être obligé de passer par les tribunaux. Là, c'est un choix qui a été fait, encore une fois, dont acte.
Quand Audrey Pulvar dit qu'elle a trouvé glaçante la manifestation des policiers qui marchent sur l'Assemblée nationale, ça fait partie du débat politique pour vous ? Qu'est-ce que vous pensez de ces propos ?
Bien maintenant, la justice le dira, puisque la justice a été
saisie. Mais vous-même, vous êtes responsable politique, vous me dites le débat politique.
J'entends des échanges d'arguments dans des journaux, dans la place publique, qui peuvent être parfois vifs. Nous avons des lois dans notre pays qui sont des lois qui sont bien faites, qui fonctionnent depuis des années. Et à mon avis, les réseaux sociaux méritent d'être regardés de plus près. D'ailleurs, il y a eu des initiatives pour ce faire, parce que dans les réseaux sociaux, il y a souvent de très graves dérapages. Mais moi, je suis très attachée
mais je
à l'état des droits
ma question.
À la liberté d'expression.
Est-ce que ça vous a choqué quand elle a dit qu'elle a trouvé glaçante cette manifestation de policiers à laquelle a participé le ministre de l'Intérieur et d'ailleurs aussi un écologiste comme Yannick Jadot ?
Je ne suis pas d'accord avec les mots qui ont été employés. Est-ce pour cela qu'il faut qu'il soit devant la justice ? Encore une fois, la justice le dira.
Le gouvernement a officialisé, à travers vous, Barbara Pompili, le lancement d'un gigantesque projet de parc éolien au large de Belle-Île-en-Mer, c'est dans le Morbihan. Vous rencontrez une hostilité grandissante et vous allez passer outre ?
Écoutez, l'éolien et le développement de l'éolien en France, c'est vital. Vital. Nous avons besoin de développer les énergies renouvelables dans notre pays. Nous sommes très en retard, très très en retard.
Par rapport à qui ?
Par rapport aux autres pays européens. En Europe aujourd'hui,
est-ce un argument valable ?
En Europe aujourd'hui, on a 5000 mâts d'éoliennes qui sont implantés partout. En France, zéro. Nous avons besoin de développer les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce que les énergies renouvelables, à chaque fois qu'on plante une éolienne, à chaque fois qu'on met un panneau solaire, eh bien, on baisse notre consommation de gaz, de charbon. Nous allons fermer des centrales à charbon en France. Nous sommes en train de les fermer. Pour ça, il faut les remplacer.
On va en parler, mais une grande partie des habitants vous interpelle, Madame la Ministre, en vous disant comment on peut promouvoir une telle laideur, c'est le mot utilisé, face à la beauté des paysages des côtes, sans tenir compte de notre avis à nous, les habitants.
Alors d'abord, on tient compte
ah
de
bon
la vie des gens.
Il y a un référendum ?
Oui. Il y a des procédures qui existent, et notamment des débats publics. D'ailleurs, des procédures qui ont été améliorées avec le temps, justement pour tenir compte des expériences passées.
C'est quoi une procédure ? C'est un référendum ? Je ne comprends pas.
Ah non, ce n'est pas un référendum, c'est une consultation où on rencontre les différents acteurs et on regarde où on peut implanter une zone. Avant, les zones, elles étaient prédéfinies. Ce qui a été amélioré, c'est que maintenant, on a une très très grande zone et on discute avec les riverains, avec les pêcheurs, avec les entreprises, avec les associations, pour regarder où on pourra
mais
le mettre pour que ce soit le
fin
mieux.
Par exemple, je vous donne l'exemple de Saint-Brieuc, au large de Dunkerque.
À la fin, Madame Mabrouk, effectivement, il y a une décision qui est prise par des responsables politiques. C'est l'État qui décide, mais après... après de nombreuses consultations. Sur les parcs éoliens, là, on est sur le 9e parc éolien qui est annoncé. Il n'y en a toujours pas une qui est sortie de mer, ce qui est un problème. Alors que le début des procédures pour les premiers parcs éoliens en mer, c'était il y a 10 ans.
Pompil, ma question est simple.
Pourquoi
refuser un référendum local? La question est simple. Par exemple, à Dunkerque, au large de Dunkerque, pourquoi refuser un référendum local? Il est demandé par tous les partis que j'ai pu joindre hier à ce niveau local.
Oui, c'est amusant parce que là-dessus, les débats, il y en a eu. Puis il s'avère que ma famille habite à Dunkerque, donc je sais très bien comment ça s'est passé. Les débats, il y en a eu.
Ils sont pour l'éolien.
Il y a eu des consultations. Il s'avère que oui, ils pensent que c'est nécessaire.
Ils font pas partie de la majorité des habitants qui sont contre.
Donc on va pas parler à leur place.
Mais pourquoi vous leur demandez leur avis par un référendum?
Mais encore une fois, parce que leur avis, il a été demandé.
Mais c'est pas ce qu'ils disent, Madame la Ministre.
Parce qu'il y a toujours un risque de NIMBY. Il y a toujours un risque de NIMBY. Est-ce qu'on a demandé par référendum aux gens d'installer une centrale nucléaire à côté de chez eux?
Mais vous nous parlez,
non, jamais.
Vous nous parlez
jamais,
de conventions citoyennes, jamais, etc. Et quand il s'agit de demander l'avis des habitants, car ils vont vivre des années avec ces éoliennes, vous ne le faites pas.
La convention citoyenne, ce n'était pas un référendum, Madame Mabrouk. Là, il y a eu, pendant l'année dernière, un débat public. Donc un débat où les gens ont été invités, ils ont débattu, ils ont fait des propositions.
Et grâce à
ces propositions, on a éloigné un petit peu le parc des côtes. On a tenu compte des pêcheurs qui nous disaient attention parce qu'à tel endroit, il faut qu'on puisse passer.
Menace pour la biodiversité marine également, vous disent les pêcheurs en baie de Saint-Brieuc également.
Alors, je vous entends égrener un à un tous les arguments qui sont donnés par des acteurs de l'anti-éolien.
Non, ce sont des pêcheurs en baie de Saint-Brieuc.
En baie de Saint-Brieuc, par exemple, qui est un autre parc, il y a eu des études qui ont été faites même bien au-delà des obligations légales pour regarder l'effet, par exemple, du bruit sur les coquilles Saint-Jacques, puisqu'il s'avère que les coquilles Saint-Jacques sont pêchées en baie de Saint-Brieuc. Bien, on a eu des résultats scientifiques qui montre que, a priori, il n'y a pas d'impact du bruit sur les coquilles Saint-Jacques.
A priori.
Sur les coquilles Saint-Jacques.
Et vous n'avez pas assez de recul pour le moment, reconnaissez-le. C'est ce que disent la plupart des scientifiques, Madame la Ministre.
Moi, si je vous écoutais, Madame Mabrouk, on serait encore à la lampe à pétrole.
Il vaut mieux écouter les habitants. Donc les habitants qui ne veulent pas l'éolien sont à la lampe au pétrole.
Non, je dis qu'il peut y avoir des oppositions, mais qu'à un moment, il faut prendre des décisions et agir. Encore une fois, moi, la question que je pose, c'est que fait-on si on ne met pas d'énergie renouvelable? Nous avons l'Agence internationale de l'énergie, donc c'est pas des gens, comment on pourrait dire, des écolos en tongs ou je ne sais quoi, qui a dit que les énergies renouvelables étaient absolument essentielles pour faire la transition énergétique. Ils ont dit qu'il fallait qu'il y ait 90% d'énergie renouvelable dans le monde.
Mais pourquoi vous parlez pas à un moment de l'esthétique, des paysages? Ça ne vous choque pas? Parfois, je vous demande vraiment très sincèrement votre avis, votre conviction sur une éolienne, que ce soit en mer ou pas, pendant 20, 30 ans, ça ne vous interpelle pas?
Alors d'abord, l'esthétique, c'est vraiment une question très subjective. Et deuxièmement, il y a justement des concertations qui sont mises en place pour tenir compte des aspects paysagers. Ça fait partie des choses qui sont prises en compte. Et aujourd'hui, pour encore faciliter l'acceptation, notamment sur les éoliennes sur terre, nous allons signer avec les différents acteurs une charte de l'éolien pour encore mieux associer en amont, pour qu'il y ait des cartographies, et ça c'est dans la loi climat résilience, qu'il y ait des cartographies qui vont être établies par le préfet pour dire où c'est possible d'en mettre, où ce n'est pas possible d'en mettre, et ensuite qu'il y ait un travail avec les collectivités, avec les acteurs, pour bien décider où on les met, où on les
et
met
la
pas.
Question derrière,
donc on fait attention
dit,
à ces questions-là.
C'est l'énergie, dans une note, Barbara Pompili, intitulée « Électricité, un devoir de lucidité ». Le haut-commissaire au plan, François Bayrou, affirme qu'il sera impossible de se passer de l'atome dans les décennies à venir. En gros, notre pays ne peut pas se passer du nucléaire. Il est lucide, François Bayrou?
Alors, encore une fois, j'essaie de sortir de la simplification.
Une note très détaillée.
Moi, j'ai lu la note qui est sortie la semaine dernière de l'Agence internationale de l'énergie. Encore une fois, là, on parle de spécialistes. On parle de gens qui sont reconnus. C'est l'Agence internationale de l'énergie, c'est les pontes sur l'énergie.
Monsieur Bayrou, il est nommé haut-commissaire au plan pour réfléchir à 20-30 ans par le président de la République.
Tout à fait. Maintenant, il n'est pas encore reconnu internationalement sur les questions d'énergie, mais ça viendra
peut-être.
Vous êtes
ironique, là.
Ça viendra peut-être. L'Agence internationale de l'énergie ne dit pas qu'il faut exclure le nucléaire. Elle dit qu'il faudrait à peu près 10% de nucléaire dans le monde. Hein, et donc 10% en France, pourquoi pas? Réfléchissons-y, je plaisante. Là, ce qu'il faut, c'est trouver un équilibre.
Mais il dit...
Aucun pays ne peut vivre correctement avec une seule source d'électricité, c'est trop dangereux.
Oui, mais
on l'a vu l'année dernière.
Il dit que
l'année dernière, à cause de la crise de la Covid, il y a un très fort besoin de maintenance sur les centrales nucléaires. Aujourd'hui, on a des centrales nucléaires qui sont moins disponibles parce qu'on n'a pas pu faire les maintenances. On doit équilibrer notre mix, Madame Mabrouk.
Mais ne vous inquiétez pas, ne soyez pas tendue. Il est dit que l'électricité produite en France
complètement détendue, vous
par
savez.
Des centrales nucléaires, c'est la condition même pour qu'on puisse avoir des énergies renouvelables. En quoi il a tort ?
Non.
Attendez, c'est grave, c'est-à-dire que vous ne partagez pas du tout le même paradigme alors qu'il réfléchit à la France des années à venir ?
On part de 70% d'électricité nucléaire en France. Vous dire qu'il va y avoir 0% d'électricité nucléaire dans 15 ans, c'est complètement faux. On aura encore 50% en 2035. C'est quelque chose qui est planifié, qui est prévu. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a besoin de 40% d'énergie renouvelable. La question de... qu'est-ce qu'il faut faire après ? C'est un peu compliqué. Rien n'est simple. Sur les énergies renouvelables, il y a un problème d'intermittence. On est en train de le gérer en mettant en place du stockage. Sur l'énergie nucléaire, on a des problèmes de déchets, mais on a aussi des problèmes d'eau, puisque vous savez qu'il faut refroidir les réacteurs et que là, on a dû arrêter l'année dernière des réacteurs parce qu'il n'y avait pas assez d'eau dans les fleuves.
Mais s'il n'y a plus de nucléaire,
donc,
on serait obligé d'avoir des centrales thermiques
partout.
Au pétrole ou au gaz.
Madame Mabrouk.
C'est pas moi qui le dis, je vous lis ce qui est dans le rapport.
Encore une fois, il y a deux papiers de l'Agence internationale de l'énergie et de RTE qui montrent qu'on peut se passer à terme de nucléaire, mais ou pas. La question, c'est de trouver cet équilibre et de faire des choix politiques. Mais encore une fois, moi, ce que j'ai là dans la note de l'AIE, c'est que l'énergie nucléaire, le nouveau nucléaire, s'il faut en construire, en 2035, dans 15 ans, le prix du nouveau nucléaire, ce sera 3 à 4 fois le prix des énergies renouvelables. Moi, je dois aussi me préoccuper du portefeuille des Français, Madame Mabrouk. Je dois aussi faire attention à l'argent qu'on dépense. Tout ça va être très cher. Je dois aussi tenir compte de ces questions-là dans les prévisions que je fais.
Autre sujet, Madame la Ministre, Brigitte Bardot, qui vous a adressé ce matin un message, nous l'avons appelée et elle vous interpelle directement, Barbara Pompili, à propos de la chasse en enclos qu'elle qualifie de barbarie. Écoutons-la.
Madame la Ministre, j'ai vu énormément d'horreurs depuis un demi-siècle de protection animale. Mais la chasse en enclos atteint un degré abject de barbarie humaine. Alors écoutez, Madame la Ministre, je vous en supplie, vous qui avez le pouvoir, qui avez le devoir et le courage d'abolir à jamais en France ces chasses en enclos, je vous supplie de faire le maximum pour y arriver.
Brigitte Bardot, sur Europe 1, est-ce que vous êtes d'accord ? C'est une sauvagerie sans nom.
Je pense, comme Brigitte Bardot, que c'est une pratique choquante. C'est une pratique choquante, d'abord parce que, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais en fait, on met des grillages, on met des bêtes dedans, et puis on les tue. Il y a un problème éthique, clairement, à ce type de chasse. En plus, il y a un problème sur la biodiversité, parce que, je ne sais pas si les gens
donc,
savent aussi...
Et donc, que fait le politique que vous êtes ?
Les animaux, pour pouvoir vivre, ils ont besoin de se déplacer,
donc,
pour pouvoir aller chercher de la nourriture.
Pour l'interdire ?
Face à ça, on est sur un problème légal, puisqu'il y a de la propriété privée. Donc, on ne peut pas changer... ils ont le droit de le faire. C'est légal. Voilà. Donc, pour changer ça, il faut changer la loi. Moi, si je pouvais le changer par décret... Je le ferais très certainement dans la mesure où je l'ai fait, par exemple, pour les cirques, les animaux dans les cirques, c'est un décret, donc je peux le faire. Les delphinariums, les dauphins, je l'ai fait parce que c'était un décret. Là, il faut une loi. Il y a des députés qui ont déposé des propositions de loi là-dessus. Moi, mon problème, c'est que l'agenda...
Madame la Ministre, allons-y. Est-ce que vous dites aux députés de la majorité de déposer cela ?
Très court. Donc, de deux choses. Un, les chasseurs doivent aussi, maintenant, parce que je sais que cette pratique choque les chasseurs. Les chasseurs doivent se remettre en cause sur cette question-là, faire avancer les choses, et faisons le débat. Et si on peut le passer dans l'agenda législatif, passons-le. Ça me paraît court, parce que je suis très honnête avec vous, mais si on peut faire bouger les choses, faisons-les bouger. C'est une pratique qui est effectivement inacceptable.
Réponse donc ce matin à Brigitte Bardot. Merci Barbara Pompili d'avoir été notre invitée. Bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci Sonia Mabrouk, il est 8h28.
Europe 1, Mathieu Béliard.
Vous restez bien sur Europe 1 à suivre le rappel de l'info, la météo. À tout de suite.
Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
8h31 sur Europe 1, un nouveau point sur l'info avec Marion Calais.
Il s'agirait du 43e féminicide en France depuis le début de l'année. Une jeune femme de 22 ans tuée hier de plusieurs coups de couteau en pleine rue à Hayange en Moselle. Après avoir pris la fuite, son compagnon a été arrêté et placé en garde à vue. Et Marion Dubreuil, ce qu'on découvre, c'est que la victime avait déjà porté plainte contre lui.
Oui, à l'automne dernier, Stéphanie avait déposé plainte pour menace de mort contre son conjoint, un Kosovar de 23 ans, bien connu de la police pour des faits de violence. Mais sa plainte n'a jamais été traitée. Elle n'a même jamais dépassé les portes du commissariat, puisque d'après nos informations, elle n'a pas été signalée à la justice. La jeune femme de 22 ans, qui subissait des violences conjugales, avait eu une période de répit en novembre dernier, quand son compagnon a été condamné à de la prison ferme pour des délits routiers. Mais le 12 mai dernier, il a bénéficié d'un aménagement de peine sous bracelet électronique à domicile. Il est ainsi revenu vivre avec sa compagne et leur petite fille de 4 ans. Dans la nuit de dimanche à lundi, il a pourchassé Stéphanie dans la rue avant de lui asséner plusieurs coups de couteau et de la laisser pour morte sur le bitume. Il a arraché son bracelet électronique et s'est débarrassé du couteau dans sa fuite avant d'être rattrapé quelques heures plus tard par la police judiciaire.
Précision signée Marion Dubreuil pour Europe 1. Air France décide ce matin de suivre les recommandations émises hier soir par l'Union européenne. La compagnie ne survolera plus la Biélorussie, le pays dans le viseur des 27 après le détournement d'un avion de ligne dimanche pour permettre l'arrestation d'un opposant. Dès hier, Bruxelles a annoncé la fermeture de son espace aérien aux avions biélorusses. Des sanctions économiques vont également être discutées et l'OTAN va réunir aujourd'hui ses ambassadeurs sur ce dossier. Alors qu'en Biélorussie, la télévision publique a diffusé une vidéo de l'opposant arrêté dimanche et dans laquelle il assure être bien traité et avoue aussi avoir participé à l'organisation, je cite, de troubles massifs dans le pays. Au cinquième jour de la trêve au Proche-Orient, l'arrivée ce matin du chef de la diplomatie américaine à Tel Aviv, Anthony Blinken, y rencontrera Benjamin Netanyahou ainsi que le président de l'autorité palestinienne. À la veille des retrouvailles avec ses camarades internationaux à Clairefontaine, l'interview de Karim Benzema à l'équipe ce matin, ses premiers mots après son retour en bleu et sa sélection par Didier Deschamps, l'attaquant du Real Madrid. Il dit sa fierté de retrouver l'équipe de France et s'être toujours considéré comme un bleu malgré ses 6 ans d'absence.
Merci beaucoup Marion Calais. 8h34, Laurent Cabrol est avec nous pour la météo.
Oui, avec un temps d'alternance aujourd'hui, toujours pareil, hein, ça ne change pas, nuages éclaircis averses. Et puis quand même du soleil près de l'Atlantique cet après-midi, du soleil dans les régions de l'Est et du soleil aussi dans le Sud-Ouest et le Midi-Méditerranéen. Voilà, ça c'est une évolution, dans le courant de la journée. Les températures aujourd'hui entre 16 et 20 degrés, il en fera 18 à Paris. Demain mercredi, passage pluvieux sur la moitié nord, mais de plus en plus de soleil au sud. Jeudi, les pluies vont régresser et quitte la France progressivement par la Champagne-Ardenne, la Lorraine et l'Alsace. Les températures commencent à remonter. C'est le changement de temps qui s'opère. Vendredi, très belle journée, 22 à 27 degrés. Samedi, petite zone orageuse du sud-ouest au massif central, mais soleil en général, 22 à 25 degrés. Et puis dimanche, jour de fête des mers, des orages dans le sud et des éclaircies gagnantes au nord. Ça range.
Faites bien de me le rappeler, tiens. Dimanche, c'est la fête des mers. C'est la météo et un peu plus avec Laurent Cabrol tous les matins. Merci beaucoup, Laurent. Il est 8h35 sur Europe 1. Très bon réveil à tous dans un instant. Notre santé avec le docteur Jimmy Mohamed.
Et nous allons prendre soin de vos yeux et te parler de la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui peut être surveillée notamment grâce aux jeux vidéo.
Et juste après, on retrouvera Fanny Agostini, notre planète, avant Nicolas Canteloup, la revue de presse. À tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
Europe 1, il est 8h37. Bonjour Jimmy Mohamed.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Le médecin d'Europe 1. Jimmy, vous avez voulu ce matin nous sensibiliser à une maladie ophtalmologique peu connue, mais pourtant extrêmement fréquente, la DMLA.
Oui, on a tous entendu un jour ce nom de DMLA qui signifie dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui est une pathologie extrêmement fréquente puisqu'on estime qu'elle touche 30% des Français de plus de 75 ans et que c'est même la première cause de handicap visuel chez les plus de 50 ans. Alors, comme son nom l'indique, le principal facteur de risque de la maladie, c'est l'âge. Plus on vieillit, plus on est à risque de la développer, mais il y a d'autres facteurs prédisposants comme par exemple le tabac, je vous en parlais hier, qui multiplie par 3 à 6 la survenue de la maladie. Et puis, il y a un lien qui ne semble pas évident, mais l'obésité est aussi associée à plus de DMLA.
Alors justement, quels sont les signes qui nous alertent sur cette DMLA ?
Alors, tout d'abord, l'idée, c'est de dépister cette pathologie qui apparaît aux alentours de 50 ans avant l'apparition des premiers signes pour pouvoir la surveiller et améliorer le pronostic. Il faut donc aller voir l'ophtalmo de façon systématique. En termes de symptômes, vous allez, comme son nom l'indique, avoir l'atteinte de la macula, qui est la partie centrale de la rétine. Vous allez donc avoir une atteinte de votre vision centrale, alors que la vision périphérique, c'est-à-dire sur le côté, sera conservé. Et des signes précoces, comme une légère déformation de certains objets, comme des lignes droites qui vont être vues comme gondolées, doivent déjà vous alarmer.
Et du côté des traitements, quelles sont les solutions ? Il y en a ?
Alors oui, il existe certains traitements spécifiques qui permettent de ralentir la progression de la maladie grâce à des injections qui se font directement dans l'œil, qui sont indolores, hein, je vous rassure, et surtout efficaces. Il est possible aussi d'influencer positivement ou de prévenir la maladie en évitant ou arrêtant de fumer, de surveillant votre poids, de pratiquer une activité physique. Et puis, l'alimentation pourrait aussi jouer un rôle protecteur, en particulier si vous consommez des aliments riches en oméga 3 contenus dans des poissons gras comme le saumon ou le thon, ainsi que des aliments riches en antioxydants et en vitamine C ou E comme des noix, des fraises ou bien des pommes. Enfin, sachez que la surveillance est évidemment importante. Il existe même un jeu vidéo qui s'appelle Odysight, remboursé par la Sécurité sociale, auquel les patients souffrant de DMLA vont jouer et qui va permettre, en fonction du score obtenu, de prévenir l'ophtalmo qui vous convoquera ensuite pour refaire le point. Alors évidemment, nous sommes loin des jeux vidéo comme Fortnite ou FIFA et plus proche d'une sorte de puzzle sur tablette, mais cela fait partie des nouveaux outils 2.0 qui ont révolutionné la surveillance de la maladie.
C'est absolument génial. Incroyable. L'ophtalmo et le jeu vidéo, la prescription du médecin d'Europe 1, le docteur Jimmy Mohamed, qu'on retrouve tous les jours, hein, de 15h à 16h sur Europe 1 avec Mélanie Gomez. Sans rendez-vous, on va parler de la DMLA à nouveau à 15h tout à l'heure. Notre planète à présent avec Fanny Agostini. Bonjour Fanny.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce matin Fanny, vous nous parlez d'une entreprise qui récupère les déchets non dégradables avant qu'ils ne prennent le large dans l'océan.
Oui, l'idée est de récupérer les déchets là où ils sont le plus concentrés, c'est-à-dire juste avant qu'ils ne se retrouvent dans les grandes étendues d'eau où leur nettoyage est quasi impraticable. L'entreprise à la source de cette initiative s'appelle Polustock et depuis fin février, elle installe des filets de récupération dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, là où les petits écoulements d'eau et les ruisseaux rejoignent un bras d'eau plus important. L'idée de génie, c'est que ces filets sont faits sur mesure pour épouser la forme de chaque bouche d'égout. Ils viennent ainsi filtrer des déchets allant du mégot de cigarette aux bouteilles et sacs plastiques, tout en ayant des points d'attache solides pour supporter des charges de plusieurs centaines de kilos lorsqu'il y a de fortes pressions pendant les intempéries. Un camion vient ensuite vider les filets pour que les déchets rejoignent la filière de tri.
Une solution ingénieuse et très peu coûteuse, hein, qui évite que les déchets partent en mer.
C'est ça, on croit bien souvent à tort que tout ce qui part dans les égouts termine en station d'épuration, mais non. Avec le vent et la pluie, les déchets qui échappent aux poubelles sont acheminés vers le réseau fluvial avant de finir dans la mer. Avec ces filets de récupération, voilà une solution low-tech, à moindre coût, mais surtout avec un très gros impact pédagogique sur les élus, car elle oblige les décideurs à mieux comprendre les mécanismes de pollution et de dispersion des déchets dans la nature. L'entreprise compte récupérer 200 à 300 tonnes de déchets par an grâce à ces filets, dont 40% seront réellement recyclés. Son dirigeant m'a confié avoir un rêve secret qui n'est d'ailleurs pas très commun, c'est celui de fermer son entreprise, de mettre la clé sous la porte, car cela voudra dire que la gestion des déchets en amont sera devenue optimale et que plus rien du tout ne traînera dans les égouts et les caniveaux.
Oui, il y a encore du chemin, cela dit. Vers quels autres modes de collecte est-ce qu'on peut se tourner pour mieux gérer les déchets, Fanny ?
Il est vrai que la collecte reste indispensable, mais même là, des alternatives sont possibles. Le quartier parisien de Clichy-Batignolles a par exemple mis en place un réseau souterrain de collecte qui permet de largement diminuer le transport des poubelles par camion. Mais au-delà de l'optimisation de la collecte et du tri des déchets, l'urgence absolue reste évidemment la réduction de nos déchets, vers laquelle les industries ont encore trop de mal à s'engager. Je rappelle seulement un chiffre ce matin, c'est encore 8 millions de tonnes de déchets par an qui finissent dans l'océan.
Fanny Agostini, Notre Planète, c'est tous les matins sur Europe 1. Merci Fanny, avec des solutions. 8h42, dans quelques toutes petites secondes, vous le savez, la revue de presse. Nicolas Canteloup arrive, Julie s'est déjà installée, à tout de suite.
Europe Matin, le 7-9, Mathieu Béliard.
8h45, ils sont là, Nicolas Canteloup avec Julie.
C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup.
Allez, tout de suite, on vous retrouve Mathieu Béliard pour un petit rappel de l'actu.
Hein, oui, oui, bonjour, bonjour Julie, bienvenue, chers auditeurs sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde changer. Et puis, l'info du jour, vous le savez, la grosse info qu'on vient d'apprendre, c'est que les coquilles Saint-Jacques n'ont pas d'oreilles. En effet, Barbara Pompili l'a révélé. L'impact du bruit sur des éoliennes sur les coquilles Saint-Jacques est inopérant. Donc, elles n'ont pas d'oreilles, c'est notre conclusion. On l'a conclu avec Laurent Cabrol. Allez, j'espère que vous avez bien profité de ce long week-end pluvieux. Et savoir, bien sûr, que... Pardon. Excusez-moi. Oui, pardon, j'ai pris froid en terrasse. C'est vrai qu'on avait l'impression d'être des marins du Vendée Globe Challenge en terrasse ce week-end.
C'est un peu vrai,
ouais. Il a grêlé, il a plu, il a fait froid, on s'est pris des embruns, mais enfin, on y était en terrasse. On a tenu. C'était pas un déconfinement ce week-end, c'était un vrai coming out alcoolique d'une nation tout entière. En fait, c'est ça la réalité. On s'est rendu compte qu'on avait tous envie de picoler. Allez, au boulot, l'info du jour, ce sont les sanctions. Les sanctions de l'Europe contre la Biélorussie, après le détournement d'un avion Ryanair. C'est vrai que cette affaire est allée trop loin. On a tous été obligés, du coup, de regarder où était située la Biélorussie. C'est intolérable. Alors, en fait, on a regardé, c'est quelque part en haut à droite, côté Pologne... Lituanie,
oui,
Lituanie,
ouais.
Voilà. Oui, ça, je le savais, parce que je suis fan de Nino Ferrer. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à Lituanie.
Bien.
Allez,
en tout cas,
l'Union Européenne... L'Union Européenne recommande aux compagnies européennes d'éviter de survoler la Biélorussie. C'est vrai, ils ont raison de préciser, parce que vrai, la Biélorussie, c'était la destination, the place to be, la destination vacances d'été 2021 que tout le monde attendait. Tant pis, ben, on n'aura plus que Mykonos ou Ibiza.
Oh,
allez, on pense à tous les passagers qui ont perdu des heures entières avant de redécoller vers la France. Ouais, oh. D'ailleurs, on est sûr que c'était un avion Ryanair, Julie, c'était pas un avion SNCF plutôt ça.
Oh.
Ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas. Oui, c'est vrai, il faut que je révise. Bon, allez, bon, mais si ça existait, c'est à ça que ça ressemblerait les trajets. Allez,
ouais.
À vous Julie.
Allez, on arrête. Merci Mathieu. On va démarrer avec un petit point météo et Laurent Cabrol. Laurent.
Non.
Non.
Qu'est-ce
qu'il y a?
Écoutez, désolé, ma chère Julie, mais là on a plein le popotin de la météo, hein, c'est bon. Elle nous a flingué notre week-end, alors merci la météo. Hein. On s'est retrouvés sur une terrasse, hein, on en parlait à l'instant avec Mathieu, sous la pluie, par 11 degrés, avec la main sur le verre de bière, pour empêcher la pluie de rentrer dedans. En plus, on s'était pas méfié, on était tous en blouson léger, résultat, on s'est caillé pendant des heures. Super, merci la météo. Non, je le dis vraiment, on pouvait même pas se réfugier à l'intérieur, sinon on risquait d'attraper le virus. Non, franchement, je me pose des fois des questions. C'est quoi ce pays dans lequel on nous demande de rester dans le froid et sous la pluie pour éviter de tomber malade?
Pas mal.
Pas une forme d'incohérence. Non, moi, la météo, c'est fini. Moi, j'en ai marre. On prend le pôle, la météo.
Que du bon sens, hein, Laurent Cabrol. Allez, courage, mon pauvre Laurent. On ne parle plus que de cette vidéo. Les youtubeurs McFly et Carlito ont enfin rencontré le président à l'Élysée. Bonjour Emmanuel Macron.
Wesh, bonjour à toutes et à tous. Bonjour the followers, the followers. Salut les gens qui m'écoutent, c'est Manu dans le 6-9. Tranquille? Bien ou bien ma gueule?
Oui, vous êtes jeune, oui, on sait. Alors, cette vidéo, c'est vraiment la place d'un chef d'État, franchement.
Mais écoutez, Julie...
Quoi?
Il ne faut pas être bêtement rétrograde, le monde évolue, voilà, c'est fini d'aller s'emmerder avec les questions sur le dumping monétaire chinois en affrontant le regard chien battu d'Arlette Chabot, c'est fini tout.
Oula.
Ça. La télé en noir et blanc, c'est fini, on est en 2021, il y a de la couleur.
Vous avez donc fait un concours d'anecdotes avec McFly et Carlito.
Voilà, je devais donner une anecdote et il devait découvrir si c'était vrai ou faux. Voilà, c'est un petit jeu, c'est sympathique. Vous voulez essayer? On peut en faire ensemble, si vous voulez.
Oui, allez, concours d'anecdotes, c'est parti.
Allez,
on y va.
Ok, vraiment? Allez,
allez-y.
Attendez, je cherche. Allez, oui, j'en ai une. Une fois, j'étais président et il y a eu une pandémie mondiale.
Oula.
Et le seul truc qui protégeait, c'était des masques. Et comme des masques, j'en avais pas, j'ai dit à tout mon peuple que les masques, ça servait à rien. Alors, vrai ou faux?
Bah, malheureusement, je crois que c'est vrai. Hein.
Yes, bien ouais, Julie. 1-0, 1-0. Allez, on en fait une autre?
On continue, allez, si vous voulez.
Alors, attendez que je... Oui, j'en ai une. Alors, une fois... J'avais un Premier ministre qui était ultra, ultra populaire. Mais genre de ouf. Genre, moi, j'étais à 34, lui, il était à 50, tu vois. Voilà. Bon, bref. Et on m'a dit, vire-le et prends un Premier ministre nul. Comme ça, il sera plus bas que toi dans les sondages, on aura l'impression que t'es populaire. Alors, vrai ou faux ?
Ah ben non, ça, on n'ose pas le croire quand même. Non, ça, c'est pas possible.
Ah ben, si tu veux, on l'appelle ce Premier ministre nul. Hein. Allez, j'appelle Nulito. Allez, j'appelle.
Nulito.
Oui, Jean Castex, j'écoute.
Oui, Nulito, bonjour. C'est le président. Est-ce que, juste, j'ai un service à vous rendre, à vous demander, cher Jean. Est-ce que vous pouvez dire à Madame Julie l'ordre de mission que je vous ai donné le jour où je vous ai embauché ?
Alors, monsieur le président, vous m'aviez demandé de ne jamais être au-dessus de 34% de popularité. Voilà. Et vous m'accorderez que pour l'instant, c'est mission réussie.
Tout à fait, tout à fait. Merci, cher Jean. Vous avez entendu, Julie ?
Oui, hein, bon, bah, oui.
J'ai gagné mon concours d'anecdotes. Je vais aller faire une roulade dans le jardin, moi. Allez.
Oh là.
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se faire réélire en
2022 ? Ouais, mais c'est pas encore fait, c'est pas gagné. Allez, merci, président. Merci beaucoup. Un petit mot de football maintenant. Lille est donc champion de France devant le PSG. L'occasion d'entendre hier la joie de la maire de la ville, Martine Aubry. Bonjour, madame Aubry.
3-4.
Oui, bon, on n'a pas la matinée non plus, hein.
Oui, en tout cas, vous avez reconnu la chanson des supporters.
Oui,
vous
le disiez.
Je suis toujours maire de Lille. Hein. Je suis un peu la Caroline de Monaco de Lille. Hein. Oui, à deux différences près, entre Lille et Monaco, il y a une des deux villes où il pleut sur des pauvres et l'autre où le soleil tombe en morceaux sur des riches. Voilà. Sinon, c'est exactement pareil, c'est deux jolies villes.
Hein. Allez. En tout cas, Lille n'était pas favori du tout, hein, contre le PSG. Ça prouve que le petit peut renverser le géant quand il y croit. Hein, c'est un
mais
peu
tout
ça.
À fait, tout à fait, ma chère Julie. Et ça prouve quoi ? Ça prouve que le collectif, hein, le sérieux, la cohésion peut faire gagner une équipe. Hein. C'est pas comme ces nullards du passé socialiste. Hein. Ils sont mauvais, ils sont prétentieux, ils sont individualistes. Bon, excusez-moi, hein, ça n'a pas vraiment de rapport, mais ça m'a donné l'occasion. Oui, mais ça me donne l'occasion de dire du mal du Parti socialiste. Hein. En tout cas, je le dis à Kylian Mbappé, cher Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé, c'est comme ça que vous
l'appelez. Oui, j'ai lu son nom dans le journal. Je lui dis, venez vivre, cher Kylian Mbappé, dans le Nord. Vous vivrez dans une de ces jolies maisons rouges alignées, strictement bien alignées. Vous mangerez du maroilles, vous boirez des picombières avec de sympathiques ch'tis, vous causerez tuning, oui, vous pourrez vous concentrer sur votre football. Hein, avec 364 jours de pluie, vous ne serez pas tenté par les terrasses. Hein. Donc venez, mon cher Kylian Mbappé, nous vous attendons.
Bah, je crois que vous l'avez convaincu. Merci Martine Aubry. Allez, on va revenir sur l'Eurovision. Barbara Pravi termine donc deuxième. On va en parler avec celui qui présentait la cérémonie. Bonjour Stéphane Bern.
Oh bonjour! Oh oui, bonjour! Oh, j'ai une patate, moi!
À ce point-là,
oh, j'ai la pêche! Oh, c'est pas du héros du cochon!
Oui, on entend
j'ai la pêche, la pêche! Il y a le groupe italien qui m'a fait goûter un truc en coulisses depuis je pète le feu!
C'est donc
qui
ça!
Qui a d'ailleurs pété le feu! D'où vient cette expression? Oh, non, c'est la question que vous posez, cher Mathieu, Laurent, ma chère Julie. Eh bien, peut-être que vous l'ignorez, mon cher Mathieu, mais Louis XVI avait des flatulences au coin de la cheminée.
Oh non, non.
Et c'est en flatulence.
Ah non, Stéphane, s'il vous plaît, on va rester. Non, non, on est à l'Eurovision, on reste sur la défaite de Barbara Pravi. Allez.
Pardon, oui. Oh, quel soulagement pour elle.
Mais enfin, non, elle a perdu. Mais c'est tellement triste, si près du but en plus.
Mais je vous jure que c'est un soulagement pour elle. Hein? Elle va pouvoir enfin s'habiller normalement, la pauvrette. Bah. Imaginez, ça fait 5 mois qu'elle était obligée d'imiter Edith Piaf. Elle va pouvoir changer cette coupe de cheveux bouclette à la con, hein, ne plus s'habiller en noir, elle va revivre, la pauvre petite.
En tout cas, elle prépare un album, je crois. Hein. Ça sera toujours dans le style Edith Piaf, vous pensez ?
Non, c'est fini, Edith Piaf. Non, rien à voir. Non, j'ai eu la chance d'écouter l'album avant tout le monde. Mm-hmm. Il y a une chanson sublime, véritablement sublime, vous me direz ce que vous en pensez. C'est une chanson écologiste sur une mouette qui est embarquée dans une marée noire.
Bah, elle s'appelle comment, cette chanson ?
Emporté par le fioul, ça fait emporté par le fioul, nananani, nananana, c'est une très jolie ritournelle.
En tout cas, deuxième, c'est une super place. Hein. On n'est pas prêt de refaire un score comme ça de sitôt d'ailleurs.
Oh, mais c'est faux. Mais pourquoi dites-vous ça, mon cher Julien? Mais c'est faux, archi faux. L'année prochaine, on a un candidat du tonnerre de Dieu.
Ah bon, vous savez déjà, vous?
Oui, oui, il s'appelle Jacques Grêle. Jacques Grêle. Il chante une chanson sur un type qui ne veut pas se faire vacciner par AstraZeneca. C'est sublime, c'est une sublime chanson, un texte formidable.
Ah bon. Et le titre, comment elle s'appelle cette chanson de Jacques Grêle?
Alors, c'est « Ne me pique pas ». Ne me pique pas, nanana. Ils vont être comme des dingues, l'Eurovision,
oh
moi je vous
oui,
le dis.
Oui, ça c'est sûr, merci Stéphane.
Merci Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse à retrouver bien sûr sur Europe1.fr. Il est 8h56 et Philippe Vandel s'installe. Culture Média va démarrer 9h-11h. La matinée continue sur Europe 1. Beau programme, j'ai déjà vu.
Très beau programme aujourd'hui. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui, une invitée exceptionnelle pendant une heure, la ministre de la Culture et de la Communication, Roselyne Bachelot, Culture Média. On ne peut pas faire mieux. On va revenir avec elle, évidemment, sur la réouverture des lieux culturels. Elle a d'ailleurs des annonces à faire concernant les salles de concert et les festivals. On parlera évidemment de l'avenir du secteur fragilisé depuis le début de la pandémie. Au sommaire également, une toute autre forme de culture, la gastronomie. On s'est tous mis à cuisiner pendant cette année de confinement avec un focus sur les magazines Cuisine et Vin de France. C'est le numéro 200 et 180 degrés dans un genre complètement différent et très complémentaire. Et puis, notre info média du jour va s'intéresser à un documentaire édifiant, Corleone, le Parrain des parrains, qui revient sur la vie de Toto Riina, le chef de Cosa Nostra, principale organisation mafieuse de la Sicile. Absolument terrible. On revient, on sera là, je vais y arriver, avec son réalisateur Mosco Bucco.
Joli.
Oui, c'est son nom. Moscou, non, c'est pas un pseudo.
Merci
j'ai
beaucoup.
J'ai compris, vous étiez sur la gastronomie. On sent le gars qui a faim.
Sur le magazine 180 degrés que vous mettez sous les yeux, comme ça, quelle belle une. On voit des fraises comme ça. On va picorer.
Des fraises, c'est pas un osso bucco.
Et la ministre de la Culture, évidemment, à 10h ce matin sur Europe 1. Très belle journée à toutes et à tous. Je reviens demain matin en direct dès 7h. D'ici là, le monde aura changé. On va vous le raconter.